Aujourd'hui, sur Radio Lodève, nous accueillons Paul Villevieille, qui est écrivain et qui vit depuis quelques années près de Lodève. Bonjour.
Bonjour.
Cette émission va permettre de faire connaissance avec vous et de découvrir ce que vous écrivez, ainsi que votre parcours. Et vous n'étiez pas forcément prédestiné à l'écriture.
Mais pas du tout. Ce n'était pas une vocation d'enfance, si je puis dire, mais c'est le prolongement de toute la lecture que j'ai effectuée pendant des dizaines d'années et qui m'a donné, bien sûr, envie un jour de passer de l'autre côté du clavier, enfin, ou de la plume, comme on dit. Et je me suis lancé en commençant d'ailleurs par des ouvrages plus techniques, plus formels, qui sont toujours d'ailleurs des guides de préparation pour des brevets de plongée sous-marine. Ce sont des bouquins techniques qui ont été mis en place à partir des années 93-95, qui étaient donc les premières lignes que j'ai écrites, qui ont été publiées, utilisées par la Fédération de plongée sous-marine.
Parce que vous étiez moniteur de plongée sous-marine.
Voilà, j'étais à cette époque-là moniteur professionnel de plongée, implanté à Banyuls-sur-Mer, avant de partir un peu plus tard, en 1998, vers les Antilles, à Marie-Galante, où, avec ma femme, qui est aussi monitrice de plongée, on a monté un centre de plongée sous-marine à Marie-Galante. Ça fait rêver. Hein.
Oui, ça fait rêver. Et puis, on vous retrouve dans le Lodévois. Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement parce qu'une fois ce parcours professionnel terminé, nous sommes rentrés en métropole et on a choisi simplement le Lodévois parce que nos deux filles étaient implantées, avaient leur vie, l'une à Montpérou, l'autre à Agnane, donc c'était facile pour nous de rester dans la région.
Voilà, et vous avez choisi le Lodévois.
C'est une histoire qui est liée au premier loisir de notre début de retraite, qui est l'équitation.
L'équitation, voilà.
Au départ, nous habitions Saint-André-de-Sangonis, puis ensuite, à ce moment-là, nous avons, en découvrant l'équitation, acheté deux chevaux que nous avons mis en pension à Fignols, à côté de Soumont. Et comme on venait les voir très souvent, on s'est dit que finalement, il valait mieux habiter sur place. Et nous avons donc maintenant choisi d'habiter Fignols,
voilà, donc,
au milieu des chevaux.
Donc Marie-Galante, Fignols, rien à voir, mais des paysages différents.
Tout à fait. Et finalement, ça nous va bien. On est au calme, on est dans un endroit merveilleux. Et tout va bien. Donc
l'écriture,
voilà,
du temps du coup, pour s'occuper des chevaux, mais aussi peut-être pour l'écriture.
Ah, tout à fait, voilà. Voilà.
C'était peut-être pas une passion au départ, mais vous avez toujours aimé ça lire déjà au départ, vous le disiez.
C'est vite venu. En commençant par des nouvelles, et puis au bout de deux ou trois ou quatre nouvelles, c'était trop courage. Il a fallu libérer les vannes et je suis passé au roman. Ce sont donc depuis j'écris... J'ai écrit à l'heure actuelle 6 romans. Ça ne va pas s'arrêter là, vous vous en doutez. Et ce sont des romans que je peux qualifier de littérature que j'appelle de délassement. C'est-à-dire que ce ne sont ni des romans philosophiques, ni des romans biographiques, ni des romans politiques ou à thème ou polémiques. Ce sont des romans pour le plaisir, pour se délasser, pour que le lecteur puisse passer quelques heures, emmené dans une intrigue.
Parce qu'il y a de l'intrigue.
Il y a de l'intrigue, et oui, le fil conducteur, il faut capter l'attention du lecteur. J'essaye. Et à partir de là, le lecteur doit, dans mon esprit, pouvoir passer un bon moment. Mmh. Et puis voilà, c'est tout simplement, ça n'a pas d'autre prétention, mais je pense qu'il y a une place, aujourd'hui, pour ce type de littérature. Il y a toujours une place. C'est un endroit qui me va bien.
Mais du coup, l'inspiration, c'est peut-être de votre vécu, des voyages que vous avez faits, l'imagination. J'imagine aussi que vous, peut-être des personnages que vous avez mis dans des situations qui existent ou qui ont existé.
Alors, c'est essentiellement de l'imagination. Il n'y a pratiquement pas, à part de temps à autre, un lieu ou l'autre dans lequel je suis passé. Il n'y a pas de référence à mon parcours de vie et à notre parcours de vie, pas vraiment. C'est de l'imagination et l'inspiration vient alors dans une démarche que j'appelle remplir le puits.
C'est-à-dire
que dans la vie courante, j'écoute, je suis sensible et je mets de côté des tas d'éléments disparates. Ça peut être de la musique, ça peut être une phrase, ça peut être un paragraphe, ça peut être trois phrases à la télévision, ça peut être tout un tissu de matériaux, si je puis dire, que j'emmagasine inconsciemment ou parfois consciemment, et je le mets de côté. C'est ce que j'appelle remplir le puits.
D'accord.
Et quand le puits arrive presque au sommet de sa capacité, c'est parti.
Vous notez des choses ou vous gardez tout en tête ?
Oh, je mets en tête, je mets très peu de notes. J'en prends un petit peu de temps en temps, pas quand ça se réfère à des situations précises ou des lieux précis. Mais sinon, tout est en tête et ensuite ça se combine gentiment. La mayonnaise prend, comme on pourrait le dire, et l'écriture se démarre. Et j'écris à peu près d'un seul jet, pas tout le même jour, mais bien sûr, mais d'un seul jet en continuité.
D'accord.
Voilà. Et ça se passe bien, ça se met en place, ça se peaufine au fur et à mesure du déroulé du récit, sur les détails, sur des situations, sur des choses comme ça, et voilà.
Donc, est-ce qu'ensuite, par exemple, tu peux le côté technique, vous revenez sur ce que vous avez écrit l'améliorer ou ajouter des choses?
J'ai la chance immense d'avoir un excellent ami qui est mon correcteur et qui relie avec bienveillance mais autorité tout ce que j'écris et qui m'enlève 99,9% des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe, des fautes d'accord, des choses que inexorablement je continue à faire malgré ses leçons. Et ça, c'est très précieux. Et en même temps, bon, c'est un fin littéraire aussi et il est d'un apport important sur l'effet produit par les textes, quoi, en disant non, ça va pas, ça c'est pas cohérent. Pourquoi veux-tu dire ça pour faire dire ça à tes personnages? Non, tu vois, vous voyez, donc il a un rôle de mise en place très important pour moi, et en plus c'est un ami.
Donc voilà, il peut vous dire les choses facilement.
Les conversations téléphoniques avec cet ami qui s'appelle Christian Ortiz, ça dure jamais moins d'une heure.
D'accord, donc on peut
tronçon par tronçon.
Donc vous écrivez, puis vous lui envoyez...
Voilà, au fur et à mesure.
Par morceaux, d'accord.
Et il corrige et on reprend, on recale un petit peu, parce qu'évidemment, moi, je n'ai pas non plus la prétention d'écrire comme un académicien.
J'ai lu quelques extraits, c'est une écriture assez simple, est vraiment à la portée de tous. Hein.
J'essaye, mais ça correspond sans doute à un petit trait de personnalité. Je suis... direct. Et on doit retrouver ça, je suppose, dans la nature dont les récits sont menés. Il y a peu de descriptions ambulatoires et en figurique. Il y a peu de descriptions complètes et étoffées. Le privilège est laissé à l'action, à l'intrigue. Hein, donc les phrases sont courtes, les phrases sont construites pour attirer l'attention et la maintenir.
Voilà, donc là, si vous voulez, on peut présenter chacun de vos romans. Alors, est-ce que vos romans ont une suite ou pas forcément ?
Non, voilà. il y a quand même, de temps à autre, un personnage qui réapparaît. Ou qui est cité.
D'accord.
Un personnage précédent, d'un roman précédent, donc qui est cité. Mais il n'y a pas de... c'est pas une saga, quoi. C'est pas une suite... complète, quoi.
Et pourquoi faire apparaître comme ça de temps en temps un personnage? Parce que vous vous êtes attaché à lui?
Parfois oui, parfois non. C'est un petit peu aussi pour rappeler, excusez-moi, au lecteur qu'il y a d'autres bouquins. Ça, bon, n'exagérons pas non plus, mais ça n'a pas un impact énorme. Mais montrer que, tiens, oui, il y en a d'autres et avec des choses qui peuvent être en corrélation.
Et maintenant, Paul Villevieille, on va découvrir chacun de vos romans. Le premier s'intitule Noir.
Noir, c'est un roman noir, comme son nom l'indique, comme son titre l'indique, qui a pour intrigue générale une vengeance suite à un crime. Un crime, on peut appeler ça comme ça, d'ailleurs ça s'appelle comme ça, qui a eu lieu sur la personne d'une jeune fille. Et son frère et son fiancé vont se fixer comme but essentiel de venger cette horrible chose qui est arrivée à leur sœur et à leur fiancé. Donc ils vont rechercher les auteurs de cette prédation, appelons ça comme ça. Ils vont les retrouver, ils vont rendre justice à leur façon, Hein, c'est-à-dire, tout simplement, ils vont les oxyre. Mmh. Les oxyre, tout simplement, si l'on peut dire. Et arriver donc à la satisfaction de leur vengeance. Ils ont atteint leur but. Et là, tout pourrait s'arrêter, puisqu'ils ont atteint leur but. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. L'affaire n'est pas finie. Et elle rebondit par la résurrection, qui n'est pas une résurrection, mais par le fait qu'un des deux prédateurs n'est pas mort et vient se venger. Et là, alors là, on tombe dans le noir, 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 très profond, qui se termine géographiquement au sud du Sénégal, en Casamance. Et qui va se terminer, je ne vous le dis pas, il faut regarder dans la fin, c'est plus...
Parce qu'on se retrouve à Collioure d'abord.
Alors d'abord, la vengeance s'établit à Collioure. Donc c'est un endroit bien français, bien connu, bien clair, bien agréable. Et ensuite, chacun retourne dans son lieu d'habitation. L'un des personnages qui a rencontré une autre jeune femme va se marier avec elle en Irlande, puisqu'elle est irlandaise. Donc il y a toute une répartition, j'allais dire, une remise dans la normalité. Mmh. Hein. Mais cette normalité est complètement explosée par le retour du prédateur.
Bon, on ne va pas tout raconter quand même.
Non, non, hein. ce serait dommage. Quand même. et donc de noir se termine mal. Soyons francs, soyons directs, noir se termine mal, mais il y en a des choses qui se terminent mal.
Aussi dans oui, c'est la vie, c'est la vie c'est aussi, la vie, voilà. Il n'y a pas que du blanc, mais blanc, c'est aussi le nom de votre deuxième roman.
Et blanc, c'est tout à fait un autre esprit, enfin c'est un autre esprit. C'est, alors, si on veut mettre des étiquettes, si on veut...
Un peu plus politique, peut-être, on pourrait dire ça
Pas forcément. Par certains côtés, mais ce n'est pas le but. D'accord. C'est, alors, si on veut vraiment donner un genre, ce serait un road movie, vous savez, un cheminement sur la route. Et donc, là, le nombre de personnages est encore beaucoup plus restreint. Trois personnages, un qui fuit, l'autre qui se cache dans le sud des Cévennes, et le troisième, qui est, elle aussi, c'est une femme, Suzanne, elle aussi cachée, en Ariège, et vit une vie complètement différente. Ces trois personnages, bien évidemment, vont se rencontrer, sinon...
Il n'y aurait pas de
quel
livre.
Quel intérêt, hein. Là aussi, quelque chose va se nouer, dans la mesure où un passé va réapparaître. Le passé de chacun va réapparaître. Et ce passé de chacun va se trouver mêlé, non pas par le fait qu'ils aient été sur des bases communes, pas du tout, mais par le fait qu'ils aboutissent à la situation actuelle, telle qu'on la vit, telle qu'elle est présentée dans le livre. Et cette situation va être suffisamment intense, dramatique même, pour qu'il y ait une nouvelle fuite qui va faire partir les deux personnages principaux, Suzanne et François, vers Barcelone. Ils vont embarquer sur un cargo pour fuir complètement en partant vers Madagascar. Et là, c'est l'explosion finale. Le cargo ne va pas exploser, mais le récit va exploser. C'était un thème... Et ça, quand on reprend un petit peu de recul, enfin, je parle des lecteurs qui m'en ont fait part... Ça ne pouvait pas finir autrement.
D'accord.
Donc je n'ai fait que conduire le récit.
Et dans ce livre, chaque personnage a une partie bien à lui.
Chacun dans ce roman, chacun des personnages prend la parole à tour de rôle.
Voilà, c'est ça.
Et parle de la même chose, de la même situation, mais chacun l'exprime à sa façon.
D'accord.
Hein, c'est un style d'écriture quoi, différent.
Le troisième ?
Alors le troisième, une si charmante voisine.
Voilà, donc là ça semble mignon.
C'est mignon.
Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais oui, on peut dire ça.
Ça roucoule. Philippe et Rachel, deux personnages, ils se rencontrent, ils se plaisent, ils décident de vivre ensemble. Alors là, on est dans la banale, enfin les situations les plus banales et courantes. Mais, bien sûr,
bien sûr. Il y a un mais.
Bien sûr.
C'est pas une histoire d'amour comme ça, toute simple. Oui. Voilà, ça serait trop facile.
Un soir, ils sont appelés par la voisine de palier de l'appartement, qui leur dit, venez vite, j'ai absolument besoin de vous, j'ai absolument besoin de vous. C'est une charmante voisine, d'où le titre. C'est une soixantaine d'années, bien, une petite jeune femme, mignonne comme tout, gentille et tout. Et quand ils débarquent sur le palier, dans l'appartement de la voisine, on change complètement de rythme. Et tout à coup, tout démarre. J'hésite à dire ce qui se passe effectivement parce que ça fait un petit peu de le sel, mais disons que cette charmante voisine n'est pas aussi charmante qu'on le pensait et n'est pas aussi voisine qu'on le pensait. Et de là s'ensuit une fuite qui va les conduire, Philippe et Rachel, et même la voisine, très loin, au Canada, dans l'ouest du Canada, dans la province, dans l'Ontario, où ils vont se cacher, se terrer et commencer à vivre dans une stabilité. Ils changent de nom d'ailleurs, ils changent de prénom et ils vivent tranquillement. Ils rencontrent des personnages qui sont là aussi très caractéristiques. Ils rencontrent un Américain qui a lui aussi un passé trouble. Enfin, pas trouble, mais difficile. Ils rencontrent, ils ont une employée pour leur donner un coup de main qui est en fait une chamane des Navajos. Et tous ces personnages vont interférer et vont contribuer à leur vie jusqu'au moment où, à nouveau, on va rebasculer vers le passé. Le passé va réapparaître et ils vont être obligés de rentrer à nouveau. Et là encore, par des péripéties simples, hein, il n'y a rien de tortueux, c'est dans la logique. Ils vont se retrouver dans l'obligation de partir en Afrique, au Malawi. Malawi est un petit état à côté du Mozambique, pour accomplir une mission dont rien ne leur avait donné envie ni ne les avait préparés auparavant. Mais cette mission terminée, ils vont risquer leur peau et ça s'arrête là. Mais ils sont sauvés, hein. Ils ne meurent pas, je rassure déjà. Ils ne meurent pas, ça va bien se passer.
Il n'y a pas une fin tragique à tous les romans.
Non, pas nécessairement, pas nécessairement.
Donc vous les faites voyager, vos personnages, quand même. Hein.
Complètement, oui. J'aime bien.
Parce que vous aimez le voyage aussi, les voyages?
Oui. Et puis dans chaque endroit, il y a des caractéristiques de vie. Que je ne connais pas toujours, hein,
Donc là, vous faites des recherches, voilà. Hein,
et qui permettent de mettre en place quelque chose qui tient la route, qui soit cohérent, logique, sans pour autant tomber dans le guide touristique. Hein. Là aussi, direct, on privilégie l'action, enfin l'intrigue.
Oui, l'intrigue.
À la description géographique.
Le suivant.
Le suivant, Aobé.
Voilà, j'attendais que vous le disiez pour pas faire d'erreur.
Aobé, alors déjà le titre, qu'est-ce que c'est que ce titre-là?
Oui.
C'est une histoire qui démarre en Sud-Casamance, encore une fois, hein, mais parce que c'est un endroit que j'aime bien. Sud-Casamance.
Au Sénégal.
Au Sénégal, oui. C'est un jeune homme, enfin un homme, oui, un homme, appelons ça. C'est un homme, c'est plus qu'un jeune homme, qui est perdu. Il est complètement amnésique et on l'appelle, parce qu'il faut bien lui donner un nom, dans le village, on l'appelle Jean. C'est pas du tout son nom, c'est pas du tout son prénom. Mais on lui dit tout le temps Aobé. Aobé, dans le dialecte de Sud-Casamance, le dialecte d'Iola, ça veut dire d'où viens-tu. Donc on l'appelle Jean Aobé. Jean, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Hein? Et donc c'est le titre du bouquin. Alors il vit bien, il est tranquillement, il est en paix, il vit avec une femme, avec l'enfant de cette femme, ça se passe bien, il travaille, il est pas en mauvaise santé. Et tout se passe bien. Sauf que. Là encore, il va se passer un événement qui va le contraindre à quitter cette femme, mais à la quitter non pas fâchée, mais au contraire très, très dépité. Et il va se trouver en présence et mêlé à une aventure qu'il ne soupçonnait absolument pas, qui est un trafic de diamants, qui passe par là, et il va se retrouver dans une situation auquel il ne pensait absolument pas. Il va être mis en contact avec un personnage qui s'appelle Franz, qu'on a déjà vu dans Une si charmante voisine. Voilà la référence que vous évoquiez tout à l'heure. Et qui va lui aussi être tombé des nues, parce qu'il ne s'attend pas à trouver Jean sur sa route. Et il va commencer à lui ouvrir la mémoire, parce que c'est quelqu'un de sa famille.
D'accord, et là il va retrouver petit à petit...
Petit à petit, mais en même temps... Ce Franz, c'est le cœur du trafic de diamants. Il est au centre de l'opération. Il va ramener Jean, qui ne s'appelle pas Jean, il va le ramener en France, au travers d'un parcours assez mouvementé, hein, bien sûr caché, puisque c'est un trafic. Et Jean va retrouver la Bretagne, qui est un endroit d'où il est venu. Hein, mais on ne sait pas encore comment il est venu. Et il va retrouver Marie. Marie, bien sûr, qui est une jeune femme dont il est toujours amoureux inconsciemment parce qu'il a perdu la mémoire. Mais elle est toujours amoureuse, elle l'attend, elle ne peut pas croire qu'il a disparu. Et cette jeune femme, il va la retrouver, bien sûr. et ils vont renouer leur amour. Et elle va finir de l'éclairer sur les circonstances qui l'ont amené ensuite à Casamance. Circonstances, là encore, douteuses. Hein.
C'est aussi des romans d'aventure.
Oui, un peu.
Voilà, vous ne l'avez pas forcément dit, mais oui, vous aimez l'aventure.
Ah oui, j'aime bien, oui. Je me dis, les gens qu'on rencontre dans la rue, la plupart d'entre eux ont à différents niveaux, un secret, une histoire, quelque chose qu'ils ont en eux. Mm-hmm. Et le but de... l'intrigue, c'est vraiment de révéler ce qui est la face cachée, qui n'est pas toujours négative, qui n'est pas toujours dramatique, qui n'est pas toujours, mais c'est la face cachée des gens. Et c'est, ça conduit à des situations qui se nouent sur la base de leur passé, de leur non-dit, de leur, et qui est, voilà, ça conduit à ces choses-là.
Le suivant, un autre style, j'imagine.
Mystique-mastique. Ça, c'est une galéjade. Je voulais changer un peu des histoires avec un peu de drame, avec un peu trop de sérieux. Mystique Mastique, c'est l'histoire de deux, enfin de plusieurs personnages, mais de deux personnages principaux qui sont des jeunes gens qui sont tellement, allez, un petit peu mythomanes quand même, un petit peu. Ils se la racontent, ils aiment bien vivre, ils aiment bien paraître et ils ont même changé leur nom, leur prénom. Hein, l'une s'appelle Sidonie et l'autre s'appelle Charles-Édouard, mais finalement, il s'appelle Will. Pour Charles-Édouard, et Pam.
Et Pam.
L'abréviation.
Oui, c'est
de
beaucoup
Pamela.
plus moderne.
C'est plus moderne.
Voilà.
Hein. Et ils vont se trouver embringués dans une histoire, mais dans n'importe quelle aventure les aurait tirés de leur quotidien. Et c'est une recherche de trésors, parce qu'ils sont sûrs de mettre la main sur un pactole qui va les enrichir pour un bon moment.
Et changer leur vie.
Mais voilà, alors. Par le biais d'un autre, d'autres personnages qui viennent s'imbriquer dans l'aventure, ils partent à la recherche de ce trésor, ils vont trouver ce trésor, ils vont évidemment se faire prendre par les gendarmes, sinon, hein, il n'y aurait pas de morale.
Ce serait trop facile, oui.
Et finalement, ils embarquent ce trésor, et la fin, bon, je ne veux pas évidemment dévoiler le truc, mais... bien sûr, ils seront aussi pauvres à la fin
qu'au début.
Voilà. Et alors, le dernier, voilà. Bon, ça, donc, c'est une galéjade. Et ce bouquin est écrit, Mystique Mastique, est écrit en trois langues, si l'on peut dire, hein, ou trois parlées. Mm-hmm. Donc, il y a le français courant, ordinaire, il y a le parler lyonnais, qui comporte beaucoup d'expressions très caractéristiques et qui est succulent à écouter et à comprendre. Et un peu d'argot parisien. Et à chaque fois, je rassure le lecteur potentiel, il y a la traduction des...
On pourra s'y retrouver, donc, si on ne connaît pas du tout.
Ben oui. Et le dernier, pour terminer, Tapis. Tapis, c'est une partie de poker. C'est deux personnages principaux et un troisième annexe. Loïc et Armel. Loïc cherche absolument à connaître comment se sont déroulées les dernières années de vie de son père. Loïc est capitaine au long cours. Son père était capitaine au long cours, donc ils se sont croisés du temps, bien sûr, du temps de leur activité professionnelle. Et son père a disparu, Corentin, son père a disparu, et disparu complètement, il ne l'a revu que dans son cercueil. Donc il est frustré, il veut absolument savoir ce qui se passe, et il lance une recherche qui va aboutir. C'est une longue recherche hein, qui l'emmène un peu partout, qui fait jouer un espèce de réseau d'amitié, des capitaines au long cours, des mêmes compagnies, qui se connaissent, qui cherchent les informations. Où était-il? Qu'est-il devenu? À tel moment, il était là. À tel moment, il était là. Et finalement, la dernière personne qui a vu, qui a côtoyé son père, c'est Armel. C'est une femme qui est joueuse de poker et qui va entamer avec Loïc une partie de poker où finalement, c'est un peu comme le poker menteur. Je sais que tu sais, mais je ne sais pas que tu sais que je sais. Et tout se passe là, sur cette trame de la partie de poker. On ne passe pas tout le roman autour d'un tapis vert, hein, bien évidemment. Mais ça va conduire les deux personnages à en rencontrer un troisième très loin, à Hong Kong. Et c'est elle, ce troisième personnage qui est une femme aussi, qui leur donnera la clé complète de l'histoire de Corentin. Mais ce n'est pas fini.
Il y a du rebondissement aussi.
Toujours. Parce que qu'est-ce qu'ils font de tout ça? Qu'est-ce qu'ils font de cette notion finale? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On continue à s'aimer? Ou chacun repart de son côté? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, dernier coup, c'est ce qu'on appelle le tapis au poker. Mm-hmm. Je mise tout ce que j'ai, je le mets sur la table, je gagne ou je perds. Mm-hmm. Et là, la fin est ouverte. une sorte de manche de lecture pour se procurer deux fins que j'ai écrites, mais que je ne fournis pas dans le bouquin.
D'accord. Mais on peut laisser l'imagination aussi.
C'est fait pour ça. C'est fait pour
voilà,
ça, ouais.
Pour s'imaginer la fin qui nous va le mieux. Hein.
C'est
voilà.
Ça. Suivant du ressenti, suivant ce qu'on a retenu. C'est...
Voilà.
Moi, j'en suis là.
Très bien. Vous avez d'autres idées. Vous avez rempli ce puits à nouveau. Vous êtes sur un cours d'écriture prochain.
Et là, je fais moi aussi le break par rapport à tout ce style, à tous ces styles-là. Quelque chose de nouveau. Enfin,
nouveau, différent.
Moi, complètement différent. Encore qu'on retombe dans l'aventure, mais pas du tout de la même façon.
Bon, vous reviendrez nous en parler hein, quand il sera écrit, finalisé. Mm-hmm. Donc voilà, des romans,
oui.
Et puis une édition bien sûr, hein, parce qu'on écrit forcément et on a envie que ces livres soient lus.
Voilà.
Donc l'éditeur, c'est aussi quelque chose d'important hein, pour celui qui écrit.
Alors l'éditeur, c'est quand on fait un petit passage dans le monde de l'édition professionnelle...
Les portes s'ouvrent, oui.
Ah,
d'accord,
compris.
Vous comprenez comment cela fonctionne.
Comment ça fonctionne. Bon, je vais... Il ne faut pas prendre ce que je vais dire pour une marque d'amertume, mais disons qu'il faut comprendre. Et comprendre qu'il y a des maisons d'édition renommées, réputées, elles sont, bon, peu importe, qui jouent vraiment le jeu au travers d'une sélection très rigoureuse des textes qui leur sont soumis. Et ça, bravo, parce qu'après, ils prennent tout en charge, y compris la promotion. D'autres maisons d'édition plus modestes, je dirais, de taille, semblent vous proposer la même chose. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est vous faire votre bouquin, c'est-à-dire le créer, la maquette, l'impression et tout ça, mais la promotion, jamais.
Mmh.
Jamais de manière efficace. Parce qu'ils vous expliquent que vous allez être sur Amazon, que vous allez être sur les bases de données des libraires, chez des sites et tout ça, mais
c'est
qui
pas
va
forcément
aller chercher
la réalité.
Vos bouquins.
Mmh.
Donc là, c'est un petit peu ce monde-là qui est bon plus... Voilà. Résultat de tout ça, je m'auto-édite.
Mmh.
Comme ça, je suis tranquille. Je sais comment faire, que la promotion ne dépend que de moi. Je sais que l'impression, c'est à la demande et l'impression numérique favorise beaucoup.
Oui, ça simplifie.
Ça simplifie, puisqu'on n'est pas de quantité imposée. Donc voilà, je médite, tout simplement. C'est enfantin, c'est facile, c'est pas compliqué de s'auto-éditer. Hein. Il y a deux, trois astuces à connaître. Et,
après, c'est tout à fait possible et à la portée.
Oh, complètement, oui. Hein. Complètement. Hein.
Ensuite, donc, pour qu'ils soient lus, il faut qu'on les trouve dans des librairies ou sur commande. Comment vous fonctionnez pour ça ?
Alors, pour le moment, et parlons de l'ODEV,
oui.
Hein, ces livres-là sont en vente chez la librairie Un trait, un point.
Un point, un trait.
Rue de la République, à l'ODEV. Et pour le moment, pas encore ailleurs. Hein, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, j'espère développer un petit peu plus les points de vente. Ce qu'il faut savoir, c'est que je participe assez fréquemment à des séances de dédicaces dans des salons du livre ou chez Cultura, la chaîne Cultura. Je viens de faire récemment, début janvier, une dédicace à Cultura Saint-Aunès à Montpellier. Mmh. J'avais fait Cultura Béziers. C'est un endroit très convivial pour présenter, avoir du passage et présenter ses bouquins. C'est très agréable.
Donc ici, on a envie de le commander, on peut passer par chez vous directement.
Oui, bien sûr, hein, sur le site internet dont on va rappeler l'adresse, c'est www.paulplume.com, tout simplement.
Voilà.
Et là, vous avez la description des bouquins et une possibilité de commander en ligne et livraison sous 3 jours.
Des livres qu'on trouve à quel prix? Très accessibles aussi,
à
15 euros, voilà, c'est ce que je...
Et de temps à autre, je fais une petite campagne promotionnelle pour inciter. Et en ce moment, jusqu'au 31 janvier, il y a 15% de remise.
D'accord, mais voilà, c'est l'occasion de l'annoncer à la radio.
Oui.
Voilà, et bien j'espère que cette émission aura donné envie à nos auditeurs de lire vos livres, vos romans.
D'accord.
Donc, merci beaucoup, Paul Villevieille. Vous êtes écrivain, donc du coup, et puis à très bientôt sur Radio Lodève.
Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci de votre accueil.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.